Vous écoutez
RMC.
RMC.
Et le deuxième est fantastique alors qu'on avait le match. Sur le match,
vu le fait que les joueurs soient les 6 meilleurs joueurs, enfin en tout cas les 3 meilleurs.
Peut-être ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Ah, ce générique qui nous permet de réentendre la douce voix du grand Franck Leboeuf. Eh oui. Qui a ramené Strasbourg au firmament du football français. Et aujourd'hui, brûle les planches, comme on dit. D'ailleurs, ça me fait penser que l'after revient sur scène.
Absolument, fort du succès au Trianon,
oui.
Tu veux dire.
Oui. Ah bon, c'est quoi? Alors, quelle est la prochaine date?
Ah bah là, on double.
Alors,
Zénith
non, Salle Pleyel
en octobre. Zénith, c'est 6000, Salle Pleyel.
Salle Pleyel, quand même.
Et ensuite, nous irons ailleurs qu'à Paris, parce qu'il faut. Je tiens à ce que.
Et après, Alençon vous attend, les amis.
Très bien, pourquoi pas.
Alençon vous attend.
Enfin, tout est ouvert pour les autres villes de France. Et il y a Reparis, c'est quoi? C'est en octobre?
Oui, 11 octobre.
Voilà. On reparlera du gacheton pour Alençon, parce que c'est petit moyen quand même. Hein. On n'a pas les moyens de Monaco, qu'on a battu en finale de la Coupe de France de basket quand même.
Ah, on n'a pas parlé de.
On est là pour te faire plaisir.
On n'a pas parlé d'aller à Monaco. Alençon, je sais pas, le maire est sympa.
Vous serez
une de
très sympathique. Non, non, tout. Alençon est une ville très sympathique. Vous serez bien reçu.
Quelle couleur politique, le maire d'Alençon?
C'est compliqué, les couleurs politiques aujourd'hui, Daniel. Ah. Historiquement, PS, je ne sais pas trop ce qu'il est aujourd'hui.
L'after remonte le temps, donc les résas sont ouvertes. Hein, si vous voulez vous joindre à nous le 11 octobre. Sylvie est là au 32-16. Salut Sylvie.
Salut, comment allez-vous? Salut Gilbert,
salut
Daniel, salut Stéphane.
Salut Sylvie.
Ah, ça fait du bien de vous avoir, hein, parce que je vais vous dire quelque chose, vous êtes pour moi la meilleure émission, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous ai mentionné Bassur l'after. On m'a même critiqué, pourquoi t'écoutes cette émission? C'est pourri, tout ça.
Non. Qui t'a dit ça?
Je vous ai mentionné, et bon, il y en a qui n'aiment pas, bon, c'est pas grave.
Oui, mais ça, c'est une poignée de haters un peu jaloux et qui ont le seum.
Merci.
Vous n'allez pas ébranler comme ça la méga confiance de Daniel Riolo.
On est là, de temps en temps, on agace les gens, mais le truc, c'est
je vais vous avouer un truc, quand même.
On est là, quoi.
J'adore. Écoutez les émissions que je n'aime pas.
Ah bon?
Ah oui.
Ah oui. Mais tu sais que l'indignation est un plaisir.
Ouais, c'est vrai, c'est une forme de.
Non mais voilà.
Ouais, mais ça dure pas. Tu le fais et tout.
Ah, écoute, je t'avoue qu'il y a certaines émissions.
Non, il faut surtout apprendre un truc, Daniel, ce qui est pas facile pour toi peut-être, c'est de penser contre soi-même.
J'essaie
de pratiquer moi-même avec beaucoup de difficultés et je m'en repens chaque semaine à la messe.
C'est fou de se rendre compte, de pas se rendre compte que c'est justement ce que je fais. Je passe mon temps à penser qu'autre moi-même pour m'apercevoir au final que j'avais raison. J'ai fait l'effort.
Ça c'est le plus beau des jingles de Daniel Riolo. Il faut le garder.
J'ai fait l'effort de passer de l'autre côté de la rive. J'ai pris ma barque, je suis allé de côté de la rive et puis je suis revenu à la maison.
Qu'est-ce qui va se passer au jugement dernier
pour Sylvie, merci pour tes compliments en tout cas. Et
non, mais c'est normal.
Tu as la parole pour parler de Paris maintenant.
Vous savez qu'avant que les Qataris rachètent le PSG, on avait l'habitude, nous supporters parisiens, de souffrir au mois de novembre. Et quand les Qataris ont racheté le PSG, on avait l'habitude d'avoir une tendinite, la diarrhée, des maux de gorge, des maux de ventre, au mois de mars ou au mois d'avril. Et là, qu'est-ce que ça fait du bien d'être en paix. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être serein. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'a pas senti cette excitation. Là, on est tellement serein, mais je me dis, est-ce que d'être trop serein, est-ce que ça va pas nous porter préjudice? Parce que, vous savez, il y a quelques années...
Tu veux dire que c'est louche qu'il n'y ait pas une crise ou une affaire qui traîne?
Gilbert, si tu t'en souviens bien, il y a quelques mois, tu étais le seul à dire... Épisode 17 sur le PSG, épisode 19.
L'été dernier, il a quand même réussi l'exploit de mettre le meilleur joueur du monde dans un loft.
C'est vrai. Mais là, franchement, il faut dire la vérité, tous les voyants sont au vert. Tous les voyants sont au vert. J'ai envie de me dire, j'ai pas envie d'être trop serein, parce que je me rappelle, il y a quelques années, contre Manchester, quand on a perdu contre les Minots, en gagnant au match aller, oh, c'est bon, on va passer. Pareil, le 4-0 contre le Barça. Oh, c'est bon, on va passer. Donc là, on joue contre Dortmund. Bah oui, on est favori. Mais si vous vous en souvenez, je pense que Daniel, tu es l'un des seuls à le dire, le vrai problème du PSG depuis quelques années, c'est pas l'équipe, hein. C'était le mental.
Et pour
oui,
moi,
mais le mental cette année, je crois qu'on l'a pas assez dit. Il faut le répéter, parce que merci. C'est quelque chose qui culturellement dans le football n'existe pas trop. Mais Luis Enrique travaille avec un psy qui a fait beaucoup de bien à l'équipe.
C'est ça. Et moi, je pense que si le mental il est au maximum, il peut même nous manquer même Dembélé, on ira jusqu'au final. Si le mental il est au maximum, pour moi, si le mental il est au maximum, on ira jusqu'au final. Ah oui, et je pense surtout.
Tu crois que c'est une affaire de mental contre le Borussia?
Oui.
Ah ben oui, à 100%.
À ce niveau, à le sport, c'est ça.
Juste, mettons-nous d'accord quand même sur un truc là. Match retour à Paris, vu l'état de forme de Dortmund, tout, ce serait quand même une énorme déception, un bide de pas aller en finale.
Un bide, j'en sais rien, mais déception, évidemment que tu serais déçu. Qu'est-ce que veux faire? Mais après, si t'as tout donné, qu'est-ce que t'es déçu, c'est pas grave, voilà. C'est pas ça. C'est, ça vaut pas les déceptions des éliminations. T'avais l'impression que l'équipe, c'était des cadavres sur le terrain, où t'avais été humilié et tout. Là, tu seras pas humilié. Tu seras pas humilié. Je suis convaincu que tu ne seras pas humilié. Je n'exclus pas l'élimination parce que c'est du foot, parce que Dortmund est une équipe. J'entendais un journaliste allemand récemment qui disait cette équipe c'est Kinder Surprise, on sait jamais ce qu'on va trouver dedans.
T'as piqué le concept.
Moi, je pense qu'il m'a cité d'ailleurs, oui, ce journaliste allemand. Et c'est vrai, on sait pas trop. Tu la regardes jouer, ce qu'elle a fait contre l'Atlético au match retour, attention, c'était énorme, hein. C'est incroyable, hein, ce qu'elle a fait. Atlético, il faut leur en coller des buts comme ça, hein. C'est une bonne équipe, hein. Ouais. Donc oui, c'est possible, mais comment ne pas croire à fond, avec l'état d'esprit que dégage cette équipe, que tu peux le faire. Je suis sûr que Mbappé va répondre présent, et avec ce gars-là, ben voilà, tout est possible, quoi.
Ouais, c'est vrai. Et de plus, ça veut dire que au match retour, tu gagnes contre, tu te qualifies en finale. 4 jours après, tu fêtes le titre contre Toulouse. Mais pour moi, c'est la meilleure année de l'ère Qatari. Donc là, avec tout ça, non, je suis désolé. Ils sont obligés de gagner. Pour moi, c'est le match le plus important. C'est le match le plus important. Et de plus, c'est que comme par hasard, quand on dit tous les voyants sont au vert, comme par hasard, aucune blessure.
Non mais ça, alors ça en revanche.
C'est aussi parce que t'as des joueurs qui sont des professionnels. Hein,
ça en revanche, c'est un. Enfin, pardonne-moi, mais ça, je comprends pas quand on dit ça. Mais c'était qui les autres blessés avant? Ça n'avait rien à voir avec la gestion de l'équipe ou pas. C'est des mecs qui faisaient n'importe quoi à côté. Quand il te manquait Verratti à 50% ou Neymar à 50%, c'est parce que c'était des mecs qui en avaient rien à cirer. Je le répétais sans arrêt, les gens voulaient pas entendre. Des mecs qui n'en avaient rien à cirer du club, qui jouaient les amoureux du club, les machins, les passionnés, mais ils faisaient rien pour être performants. Donc voilà.
Moi j'ai juste un peu peur, c'est il y a un joueur vraiment je suis pas serein, c'est que Donnarumma.
Ah oui,
côté allemand, ils doivent se dire la même chose, hein, avec leur défenseur, avec un Hummels qui parfois est un peu vieillot et tout.
Et quels sont les joueurs de Dortmund que tu aimerais avoir au PSG aujourd'hui? Pose-toi cette question là déjà avant ce match là.
Dans le milieu de terrain, si j'associe Vitinha, Sabitzer et Zaire Emery,
direct.
Ouais, voilà, Sabitzer, ouais. Je le prends. Attends, ils ont des bons joueurs, hein, quand même. Hein,
Ah oui, hein. Moi, franchement, comme ça, un joueur comme Sancho, je le prends à la place de Solaire et de Solaire tous les jours. Hein.
Après,
un joueur qui joue pas.
Il le prend pour être sur le banc.
Non, mais Sancho, leur ligne d'attaque, à part Mbappé qui est au-dessus, clairement, leur ligne d'attaque.
Dembélé aussi, Daniel, ils ont pas de joueurs comme Dembélé à Dortmund en ce moment. Ils sont cinquième en Bundesliga, c'est pas non plus, c'est quand même.
Alors,
c'est,
je suis d'accord avec toi.
Quand même relativiser ce Dortmund là, quoi. Oui, le Dortmund, quand ils battent le Dortmund de Haaland, là, il y avait des joueurs qui sortaient du lot.
Sur
Sancho, à cette époque-là, il faisait peur.
Sur un match, Adeyemi, Sancho ont assez de qualité pour être supérieurs aux nôtres.
Oui,
la durée, effectivement, ce sont des gars qui ont l'air un petit peu moins réguliers. Honnêtement, les qualités de vitesse, Adeyemi, Sancho, même comment il s'appelle l'attaquant, la Fulkrog, là, je sais plus comment il s'appelle.
Fulkrog, ça s'appelle comme voilà. Ça.
Ouais, exactement.
Brandt
peut jouer. Les trois du milieu, Emre Can, c'est un très bon milieu de terrain. Sabitzer, non, ils ont une bonne équipe. Sur la durée d'un championnat, c'est une équipe qui peut perdre pied, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, en proposant parfois des matchs pas loin d'être cata. Polo n'arrivait jamais réellement à nous décrire ce dont était capable cette équipe. Mais sur un match comme ça, sur un aller-retour, les gars motivés, la qualité, ça s'oublie pas. Et Adeyemi, Sancho, ça peut être deux mecs de côté qui peuvent faire très mal.
Je remercie Sidi au 32-16 et on accueille Salim. Bonsoir Salim.
Bonsoir l'équipe, ça va?
Ça va et toi?
Ouais, moi je suis pas d'accord avec l'avis de Stéphane. Moi je suis pas du tout d'accord parce que le championnat cette année, pour moi ça a été compliqué parce qu'il venait d'arriver le coach. Alors c'est vrai qu'il n'a pas été parfait à chaque journée. Hein, la composition à Clermont, ça n'avait ni queue ni tête. Pareil pour la compo à Newcastle, il y a pas de problème. Mais les années Tourelle n'étaient pas meilleures que celle-là actuelle. Tourelle, faut savoir qu'il est mort le soir d'un comeback. Après, on avait vu à Nantes, on avait vu le 5-1 à Lille, on avait plus vu Paris prendre 5-1 depuis Sedan en championnat. Il y avait Kurzawa qui demandait les consignes sur le côté. C'était ridicule, il y avait des problèmes de communication entre le staff et les joueurs.
On le sait, mais c'était aussi dû à un groupe qui était ingérable. Rappelle-toi des propos de Tourelle en partant. Ici, je fais de la politique, il va à Chelsea, gagne la Ligue des Champions.
Ouais, mais Daniel, rappelle-toi bien qu'il était sur un piédestal après la victoire à United. Je t'assure qu'il est mort le soir du comeback. Tout n'est pas parfait dans notre club, encore une fois. Je suis pas d'accord avec cette année-là. Je me souviens, Nasser Khelaifi avait dit, ouais, Michael Jordan est supporter du Paris Saint-Germain. On avait signé le contrat avec Jordan.
Oui, c'était le PSG qu'on n'aimait pas. C'était le PSG qui parlait à tort et à travers.
Oui, mais Tourelle, avant le comeback, il était sur un piédestal. Personne lui mettait les bâtons dans les roues. Rappelle-toi, c'était la calinothérapie, etc.
Oui,
bien sûr,
j'en ai parlé plein de fois.
Et donc, eux aussi, ils ont leur tort. Aujourd'hui, moi, quand je vois Luis Enrique, alors comme je te dis, c'est pas parfait ce qu'il fait. Hein. Mais avoir des joueurs polyvalents, proposer quelque chose tactiquement, retranscrire tout ce qui travaille la semaine, il arrive à le retranscrire le week-end, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors c'est sa première année. Hein. Je suis pas en train de, c'est pas un jugement définitif. Mais le mec, moi, je vois des choses, des joueurs qui jouent à plusieurs postes. Kanginli, moi, j'ai vu Dembélé au milieu de terrain. À la Real Sociedad, j'ai vu un Dembélé sans ballon métamorphosé, le mec réduit les distances de passe, le mec il, tactiquement il est intéressant, des petits jeunes comme Barcola.
Et on est tous d'accord là-dessus, mais encore une fois, moi les entraîneurs que tu as cités n'ont pas eu la chance d'avoir un vestiaire purifié. Ça change tout quand t'as un vestiaire purifié.
Puis, un vestiaire purifié, puis un président qui fait pas l'équipe dans le dos de l'entraîneur, quoi.
Voilà, et qui est pas là pour écouter les. Tu te souviens tout ce qu'on disait? Le joueur, il appelle directement El Khelaifi.
L'affaire Aurier, elle est quand même incroyable.
Ouais, c'est,
elle est incroyable. Il y a eu une histoire tourmentée. Hein. Faut pas oublier tous les épisodes. Hein.
La saison 15-16, je suis d'accord avec Stéphane qu'elle est énormissime sous Laurent Blanc en championnat et en coupe, etc. Et que oui, l'affaire Aurier avait pourri le quart de finale, que ce soit à l'aller ou au retour. En plus, j'y étais là-bas assisté avec le 3-5 et tout. Mais c'est pas ça le problème. Le truc, c'est que, en fait, aujourd'hui, il faut se rappeler que Tuchel et Emery, ok, c'est des bons coachs, j'ai jamais dit le contraire. Mais Tuchel, avant la remontada, Emery, avant la remontada et Tuchel avant le comeback, ils étaient sur un piédestal. Il n'y avait pas, en fait, tous ces problèmes-là. Les problèmes sont venus après. Et rappelle-toi, Daniel, entre l'aller de Dortmund en 2020 et le retour de Dortmund, tu demandais le départ de Tuchel. Et j'étais d'accord avec toi parce que tu pensais qu'il était mort le soir du comeback et que c'était irrattrapable. Donc, ces gars-là, ok, ils ont eu des problèmes par rapport aux directions de ces années-là et par rapport à la présidence de Nasser Al-Khelaifi quand il se mêlait du sportif, il faisait n'importe quoi. Je suis d'accord. Mais il y a aussi leur faute à eux, au PSG. Ils n'ont pas su aussi se mettre dans leur meilleure disposition pour aborder les matchs retour.
Oui, bien sûr. Bien, on est d'accord. Et, hein, personne ne dit le contraire de ça.
Mais cette année, tactiquement, ce que je vois, enfin, moi, j'ai vu ce que Tuchel a fait d'Nkunku. Je regarde, par exemple, ce que fait Luis Enrique de Barcola. Ce qu'il arrive à faire d'un mec comme Mayulu, même si je ne veux pas juger parce que c'est trop peu de matchs, mais ce qu'il fait de Warren Zaïre-Emery, ça n'a rien à voir. Je suis désolé, c'est un ton au-dessus, ce que fait Luis Enrique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail tactique parce que ça prendrait plusieurs minutes, mais franchement, force est de constater que ce coach-là, je ne dis pas que ça va être parfait, qu'on va gagner avec des champions, je ne sais pas. D'ailleurs, ça, personne ne le sait. Mais en championnat, on n'a qu'une seule défaite, malgré tous les matchs nuls.
Ouais, t'as 10 matchs nuls quand même, t'as 10 matchs nuls sur 30 matchs.
On n'a qu'une seule défaite, On a qu'une seule défaite.
Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire au fond? J'arrive pas à comprendre ce que tu veux dire.
Tu penses que le PSG qui gagne le titre cette année, c'est le plus beau PSG que t'aies vu, quoi?
Alors, je vais pas te dire, c'est parce qu'il y a débat entre 15-16 et celui de cette année, aussi celui de 17-18. Donc ça, je peux pas m'avancer. Mais par contre, on ne peut pas dire que les équipes de Tuchel étaient meilleures que celles de cette année. Non.
Personne n'a dit ça.
Si, Stéphane, si. Stéphane a dit
que j'avais vu des saisons. Alors, moi, je parle du championnat.
Moi, j'ai dit qu'il y a eu des entraîneurs très bons, mais qui n'ont pas eu la chance de travailler dans les mêmes conditions.
Des titres du Paris Saint-Germain et qui ont une qualité de jeu bien supérieure à celle de cette année. Oui.
Jamais aucune année où la qualité de jeu du Paris Saint-Germain en championnat est meilleure que celle de cette année. Aucune.
Non mais ça, à la limite, honnêtement, moi, très franchement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je préfère, comment dire, m'arrêter sur l'impression générale qui est dégagée et le lien avec le public plutôt que de savoir si pendant les six premiers mois de Tourelle, qui ont été vraiment que j'ai beaucoup aimé, c'est mieux que le dernier mois de Luis Enrique ou le début de saison de telle ou telle saison. La vérité, tu veux que je te dise, jusqu'à la Coupe du Monde Qatar, les premiers mois de Christophe Galtier, en termes de jeu, ils sont plutôt pas mal du tout. Oui. Si vraiment on doit dire la vérité. Et pourtant, cette équipe, elle ne ressemblait à rien parce que tu avais un coach qui faisait pas grand chose et c'était pris en main par des joueurs et notamment deux qui ne pensaient qu'à une seule chose, préparer la Coupe du Monde et qui n'en avaient rien à tamponner du PSG. Donc c'est ça la vérité. C'est que jusqu'à novembre 2022, ce début de saison, franchement, il est fantastique en termes de jeu. Mais pourtant, moi, personnellement, l'idée que des joueurs dans cette équipe se foutaient du club et ne pensaient qu'à leur tronche, ça ne m'intéresse pas. Donc parfois, tu vois, la qualité de jeu, c'est aussi relatif par rapport à ce que tu dégages plus globalement, quoi, tu vois.
Alors, je remercie Salim au 32-16. J'aimerais vous donner des infos.
En ce moment, ils sont en plein surkiff.
En vue du match d'après-demain.
C'est pas la folie ce qu'ils proposent en termes de jeu.
Après-demain, Nuno Mendes devrait être opérationnel. C'est ce que nous dit Fabrice Hawkins aujourd'hui. Il y avait une incertitude le concernant. L'équipe devrait être donc la suivante, à confirmer demain. Donnarumma, défense, Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes.
Ouais.
Milieu, Zaïre Emery, Vitinha, Ruiz.
Ouais.
Et devant, Dembélé, Mbappé, Barcola.
Ah, bah donc il y a une équipe type alors maintenant. Et ça rejoint 4-3-3 alors. Ah, bah, c'est bien. C'est bien.
Voilà. Au milieu, tu dis Zaïre Emery,
moi je suis Kinia. Content. Et Ruiz, qui est devenu l'équipe type, mais comme il paraît qu'il n'y a pas du tout
à
d'équipe type.
À vos amours,
type,
Gilbert.
Merci.
Comme il n'y a pas du tout d'équipe type et que tout chamboulé, c'est bien, non, je m'aperçois.
Oui, bon, je te redis ce que je t'ai dit la veille du match.
Je suis très heureux du match qu'un 4-3-3 tout simple, avec les meilleurs joueurs et tout, ça passe. Bon, très bien.
Je te redis ce que je t'ai dit la veille du match à Barcelone.
Je voudrais juste rappeler quand même que Gonzalo Ramos est en pleine bourre et que probablement il rentrera dans le match.
Oui, il sera. D'ailleurs,
je ne sais pas. Mais c'est un joueur qui est très
efficace. Il est demain à la conférence de presse, donc en général, c'est signe.
Et je suis absolument ravi de ses performances. Depuis le début de la saison, je le kiffe. Donc voilà.
Oui, non, tu voulais dire un autre truc, Stéphane ?
Non, mais je voulais dire ça que Ramos, je pense quand même qu'il peut, il peut être titulaire et que. Malheureusement, c'est encore une fois, ça vise surtout pas Fabrice, hein, qui fait un travail remarquable. Mais en général, depuis que je participe à ces émissions,
oui, souvent,
l'émission du lundi, l'équipe du lundi du mardi n'est jamais celle que je vois alignée. À une exception près ou deux, hein, c'est pas non plus.
Si au moment d'une demi-finale très importante, on retombe sur nos pattes, j'en serais ravi.
Moi, je serais surpris que Ramos soit pas titulaire quand même, avec le match encore qu'il a sorti samedi.
Plus d'infos demain, on sera en veille de match. D'ailleurs, ça me permet de vous rappeler que tous les matchs de Coupe d'Europe seront sur RMC avec la libre antenne également qui sera là mercredi et jeudi, après l'after pour continuer le débat,
sur l'OM et le PSG.
La libre antenne de l'after. Tu fais quoi comme match cette semaine, toi?
Je fais, le Bayern demain, Bayern Real demain, c'est quand même sympa. Et Leverkusen Roma.
Tu deviens spécialiste du Real, dis donc.
Deux super affiches.
Ouais, rigole, ouais, non, ça va.
Bayern Real, c'est un grand classique de la Ligue.
Tout va bien, les amis.
Leverkusen Roma.
Je me plains pas, il n'y a pas de problème.
Et ben, on analysera ça demain soir ensemble. Dans un instant, la Ligue 1, la lutte pour l'Europe, la lutte pour le maintien et les chiffres des buts marqués. La Ligue 1, les gars, vous allez le voir dans quelques instants, bat des records. Je vous explique pourquoi dans quelques secondes.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h23, Stéphane Guy est là, Daniel Riolo est là. Alors, c'est vrai que ce week-end, on a éclaté le nombre de buts marqués en Ligue 1. Vous êtes au courant quand même, ça vous savez. Avalanche de buts, une première depuis 1976. 40 buts ont été inscrits. Deuxième plus gros total de l'histoire du championnat de France. C'est arrivé à la 38e journée lors de la saison 2007-2008. Il y avait alors eu 43 buts.
On a une très belle fin de championnat avec du suspense un peu partout. C'est le moment d'aller vendre la Ligue 1. Le problème, c'est que c'est vendu et que ça va pas être dingo. Parce que quand même, la grosse tendance, évidemment, je l'ai dit mille fois, je vais le redire, donc que c'est Bein avec un Boucanal en distrib. Mais surtout dans la négo, là, ce qui bloque en ce moment, pardon pour cette parenthèse, je reviendrai à la qualité de la Ligue 1, c'est que Bein dit, ok, on va mettre l'oseille, mais dans la distrib de l'oseille, on veut qu'une grosse partie aille dans les poches du PSG. En même temps, c'est normal, puisque ça passe de la poche droite à la poche gauche. Donc, je trouve pas que ce soit très heureux de la part du PSG de demander ça, un peu comme condition. Bein, hein. Mais c'est peut-être la direction qu'on est en train de prendre.
J'ai pas
déjà
fini,
pour CVC, mais... le gros bout de gâteau, c'est le PSG qui l'a pris. C'est pour les droits. On casse un peu la traditionnelle répartition.
Au-delà de l'accord sur les droits étrangers, tu veux dire sur les droits nationaux, il réclame aussi un prorata qui irait...
Je pense que ça peut... Ouais. Qui serait...
Ce qui se murmure une rupture d'égalité assez incroyable. Quoi.
D'un point de vue stratégique, même si je suis président du PSG, je trouve que c'est absurde parce qu'il faut que le championnat soit compétitif. Bon, il l'est cette année, clairement, mais pas pour le titre de champion, il l'est pour toutes les autres places.
Ben, ce serait scandaleux surtout. Enfin, moi, je trouverais ça scandaleux. Si c'est mal à être, enfin,
sauf si c'est soyons... ça ou rien. Sauf si c'est ça ou t'as que dalle.
Enfin, c'est un fiasco total. Si c'est ça ou que dalle, c'est que ceux qui sont en charge du dossier n'ont pas très bien travaillé.
On n'est pas forcément très loin de ça.
Ou alors, on en arrive à ce que quand même beaucoup, dont moi pense, c'est-à-dire qu'effectivement, encore une fois, hein, c'est le suspense en Ligue 1, il est très, très relatif, et la seule certitude que tu as.
Le suspense, il n'existe pas pour le titre. Il existe pour 2, 3, 4, 5, 6, maintenant même jusqu'à 7. Et pour
mais ça impacte forcément l'intérêt pour ton championnat, Daniel.
Je suis bien d'accord. Moi, je suis pour une répartition égalitaire au moins à 50%.
Ce qui manque, pour revenir à notre débat précédent, ce qui manque à ce titre-là du PSG, c'est la concurrence. Oui. C'est qu'il y a eu un vrai rival.
Oui.
Est-ce que le PSG, avec le Lens de l'année dernière, de cette année-là, aurait été champion? Sans doute pas, je ne sais pas.
Oui,
voilà.
Oui, non,
voilà
bien, ce sûr, bien sûr.
Vous connaissez la moyenne de buts en Ligue 1 cette année ?
Par match, tu veux dire ?
Ouais, la moyenne de buts, vous savez, le fameux.
Je dirais 2,5 buts par match.
2,66. Ah,
c'est super.
Très, très bien.
Alors, les Anglais restent en tête. D'habitude, c'est les Anglais et les Allemands en tête. Hein. Là, cette année, c'est les Anglais avec 3,26. Les Allemands sont à 3,17. Mais nous sommes devant l'Italie et l'Espagne.
Alors qu'on était.
Ce qui est une première. Alors qu'avant, c'était toujours dernière, mais en général, de très, très loin. Voilà, bon, donc c'est quand même aussi un signe, ça.
Ouais, très bien.
Voilà. Je voulais vous le dire.
Ah, quand tu vois le match d'hier, enfin le Lyon-Brest et le Brest-Rennes d'hier, enfin le Rennes-Brest, écoute-nous des matchs comme ça, on en veut toutes les semaines. Hein. C'est fantastique.
Bon, Florent Gautreau n'est pas là pour nous ressortir ses grandes théories sur les défenseurs et la baisse de niveau global des défenses.
Oui,
en
Ligue 1. Qu'il y ait une baisse de niveau global, moi je veux bien, on peut débattre de ça, mais après tout, à quoi bon? Quand on parle de la Bundesliga, on sait très bien que tout est fait pour qu'il y ait beaucoup de buts en Bundesliga. Pareil, on dit que
un mec
en Ligue 1 qui n'enfile pas de buts, il va là-bas, il enfile des buts. Bah oui, puisque on a raconté mille fois qu'il y avait des primes qui étaient très grosses
même
sur les victoires et pas pour les matchs nuls. Donc il y a peu de matchs nuls. On a développé un modèle tout pour l'attaque en Allemagne. Et alors, qu'est-ce que ça peut foutre après tout?
Ça les empêche
d'être performants. Ils ont le Bayern, Dortmund et Leverkusen en demi-finale des Coupes d'Europe. En quoi c'est un handicap?
Ils sont là.
Non, et puis surtout, hier évidemment, si tu regardes d'un point de vue organisation défensive, le Rennes-Brest, tu trouves ça par moment assez affligeant, mais en même temps, quel kiff on a tous pris.
Mais
à
mettre des buts, ça donne confiance, mettre des buts, ça donne du plaisir, ça fait plaisir aux joueurs, ça les fait kiffer.
C'est quand même un peu la raison d'être du foot quand même.
Exactement, en quoi ce serait un problème? Ok, on a baissé en défenseur, et alors? Moi, je m'en tamponne complètement qu'on ait baissé en qualité de défenseur. Les défenseurs, tout le monde dit en Allemagne, ouais, tout le monde enfile des buts, machin, machin. Ben, regarde le résultat en Coupe d'Europe, parce que c'est un problème. Ils sont en train de faire mieux que les Anglais. Oui ou non? Les Anglais, cette année, en Coupe d'Europe,
meilleur avec les Anglais, bien sûr.
Voilà. Stéphane est là au 32-16 pour évoquer cette Ligue 1 de cette année. Et Stéphane est supporter du Havre. Salut Stéphane.
Oui. Bonsoir à tous.
Moi aussi.
Merci de m'accueillir. Hein.
Non, tout pour quand, toi, que tu racontes?
J'aime les clubs normands. J'espère que le Havre va se maintenir en Ligue 1.
Stéphane, on peut être pour Caen et pour le Havre?
Oui. Bah, moi, je suis d'Alençon, donc je suis ni de Caen ni du Havre, mais j'espère que le Havre va se maintenir en Ligue 1, bien sûr.
C'est gentil, Stéphane.
Bien sûr.
Bon, bah, Stéphane, c'est sympa. Tu ne qualifies pas Stéphane Guy de footix cané. De footix normand.
Pas du tout.
Je suis Adam Sonix.
Vas-y Stéphane, on t'écoute.
Non, mais brièvement, on en avait déjà discuté ensemble pour vous dire, voilà, bon, je trouve qu'en ce moment, j'ai la chance d'écouter un peu Rotten le soir, j'écoute l'After, surtout en podcast, et je trouve que vous tapez énormément sur la Ligue 1, surtout les anciens joueurs, les consultants. Alors en ce moment, il y a des critiques acerbes, comme ça, vous tapez sur des joueurs en particulier, ça y va, sur la Ligue 1 constamment. Alors moi, ce que j'aimerais juste dire brièvement, bon, il est tard, mais c'est que, voilà, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Moi, je suis prof d'espagnol, donc je connais aussi pas mal la Liga. En Liga, il y a énormément de purges cette année. On s'ennuie énormément en Liga. Alors, C'est vrai que si vous parlez forcément du championnat anglais, du championnat allemand, qui sont largement au-dessus des nôtres, d'une autre, mais et comme je vous l'ai déjà dit une fois, moi, nous, on prend beaucoup de plaisir, même si c'est qu'on va voir que le Havre, le stade est plein, on s'amuse, on est en famille, on voit un football relativement sympathique, on voit des belles équipes, on voit quand même des joueurs qui ont du ballon. Moi, on s'est régalé à voir des joueurs de Montpellier l'autre jour, Titi Savagnier au HAC. Enfin voilà, je pourrais vous en citer plein. J'ai vu Lille cette année jouer merveilleusement bien. On a eu la chance de voir.
Tu sais, Stéphane, moi j'ai l'impression qu'on a été très positif là ce soir.
Honnêtement, je ne comprends pas ce que tu racontes. Parce que en dehors d'une dépression mi-janvier, mi-février, où je me souviens très bien, David, où j'étais pour le coup vraiment la dépression de l'hiver, j'en pouvais plus de voir certains matchs. En dehors de ça, je crois qu'on n'a jamais été aussi positif avec les entraîneurs et les joueurs que cette année.
Oui, tout à fait, Daniel. Alors moi, je te kiffe vraiment dans tout ce que tu écris, etc. Par contre, je trouve qu'il y a du bashing Ligue 1. Par exemple, cette semaine, voilà. Alors si on est clair, moi, quand je vous écoute sur RMC, parce que je vous adore, mais si on parle du match qu'il y a eu à Paris Saint-Germain-Le Havre, si on parle concrètement du 11 de départ du Havre avec les consultants qu'il y a sur RMC, dites-moi si c'était l'équipe type du Havre qui a joué contre le Paris Saint-Germain.
Attends, moi, je ne sais pas pourquoi tu nous interpelles là-dessus. Moi, j'étais pas à l'antenne samedi soir. Je n'ai même pas parlé du PSG Le Havre. Donc, si tu veux régler des comptes avec d'autres, appelle-les eux. Mais pourquoi tu nous dis ça à nous?
Pas du tout, parce que on m'a appelé là pour que j'intervienne, parce que Le Havre a joué avec un nouveau milieu de terrain et personne n'en parle, par exemple, pour vous dire que voilà, on a des joueurs qui jouent relativement bien. La Ligue 1, on s'éclate.
Évidemment, Le Havre joue bien. Moi, j'aime beaucoup Lucas Elsner et ce qu'il fait.
Ben voilà. Donc je trouve qu'il y a en ce moment, il y a un bashing Ligue 1, alors que je pense que les publics sont, les stades sont pleins.
Mais il n'y a pas de bashing Ligue 1, c'est pas vrai.
Si.
Mais où en fait? Mais tu parles de qui?
Ah ben écoute, Rotten toute la journée.
Mais appelle Jérôme pour lui dire. Stéphane, je suis désolé, mais appelle Jérôme et règle tes comptes avec lui. Mais nous. Enfin, il me semble pas vraiment cette année, on a rarement été aussi positif. Je te dis, à part vraiment mi-janvier, mi-février où j'étais en DEP. Ça, c'est vrai.
Non, mais je n'ai pas souvenir d'avoir entendu Jérôme dire du mal du PSG.
Mais c'est vrai que des fois, je me dis. Et comme je vous ai, les gars, non, mais les anciens joueurs en ce moment, je ne sais pas ce qu'ils ont contre la Ligue 1, mais c'est fou, quoi. J'ai un grand respect pour eux quand j'entends du gars qui parle de la Ligue 1, mais ne la regarde pas, n'en parlez pas, parlez d'autre chose.
Il a été aussi positif sur Paris tout à l'heure, Stéphane.
Si tu regardes la qualité technique de Marseille-Lens hier soir, c'est quand même assez consternant pour des équipes avec ces moyens-là. Ces pédigrés-là, tu vois, par exemple. Mais c'est pas bâcher la Ligue 1 que de dire ça, c'est un constat d'un match.
Ça a été compensé par une énergie et un suspense qui ont rendu le match intéressant.
Voilà. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai, quand on va au stade, nous, on attend, moi aussi, j'ai joué au foot, etc. On n'est pas forcément, on est content quand même de voir des choses. On attend de l'émotion. Daniel t'en parle souvent. On attend des émotions. Et c'est vrai qu'on va être peut-être moins rigoureux sur le côté de la technique, etc. Mais on attend, on passe un bon moment. Et ça fait plaisir.
Je suis d'accord. Tu sais quoi, Stéphane, on n'a pas fait cette année, et il faudrait qu'on le fasse, notre petit, comment on appelait ça, là, le hit parade du kiff.
Si, on l'a fait.
Non.
Si, on a dit que c'était Brest.
On l'a pas du tout réactualisé. Je pense que cette année, on avait du mal à trouver chaque année des équipes pour se classer dans ce hit parade. Je pense que cette année, ça peut se bousculer au portillon.
Brest, ouais. Lyon.
Ouais. Alors qu'ils étaient plutôt en dépression. Ils sont en train de faire une saison.
Lille.
C'est pas une équipe qui fait kiffer beaucoup Lille. Quand même.
Les Lillois, ils sont super contents. Ils ont eu une saison où ils ont joué demi-finale.
Les Parisiens, quand même, cette année. Parce qu'il y a quand même la Ligue des Champions.
Cette année, je te dis que ça se bouscule au hit parade du kiff. Les supporters du PSG sont contents. Ceux de Lille sont contents. Ceux de Marseille.
La façon dont les supporters vivent leur équipe.
C'était ça, le hit parade du kiff.
Pardon.
C'était, toi, comment tu
vis de la qualité foot.
Non. C'était le plaisir, le rapport que t'as quand tu vas au stade et tout. Donc, Marseille est en train de terminer sur une note où ils sont tous excités. C'est normal avec demi de Coupe d'Europe.
Lyon, les supporters de Toulouse doivent être contents.
Toulouse, ils ont passé une belle année. Qui on a d'autres? Brest, tu l'as dit.
Lens, oui et non.
Lens, oui et non. Le début de saison, mais là, ils sont retombés dans le hit parade. Là.
Stéphane, merci beaucoup.
Merci à vous. Continuez comme ça.
Salut, Stéphane.
Bisous à tous, merci.
Ciao.
Salut Stéphane,
merci, à
bientôt. Dans un instant, nous on va faire un point sur la course à l'Europe et la course au maintien, comme un peu tous les lundis, là il reste 3 journées, donc c'est important de donner notre avis, et puis ensuite on parlera de la sonorisation des arbitres. Je vous explique dans quelques minutes comment ça va se passer, parce que vous allez voir que ça concerne pour l'instant un cas très spécifique. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h36, Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là. Messieurs, avant de parler de sonorisation des arbitres, il faut quand même qu'on fasse un point. On l'a fait un peu rapidement hier, mais prenons un peu de recul là sur ce qui se passe en haut du classement. Parce qu'on peut commencer à avoir des idées assez claires. Et maintenant, il y a même des choses mathématiques hein, concernant la course à l'Europe. Brest, maintenant, c'est fait. Je rappelle que la 7e place sera européenne si jamais le PSG gagne la finale de la Coupe de France. Moi, je pense qu'il ne faut pas exclure Rennes de la course, qui n'est qu'à 2 points de la 7e place, même si ils sont dans une dynamique qui n'est pas positive là après la défaite d'hier. Et peut-être que Nice avec sa victoire, on en a pas parlé hier. Peut-être que Nice avec sa victoire à Strasbourg hier.
Pour moi, Nice, ils accrochent l'Europe.
Ils y sont peut-être déjà là.
Et rappelez-vous ce que je vous avais raconté sur leurs histoires en interne.
Ils ont 7 points d'avance sur la 7e place.
Ils gagnent un match.
Que derrière la crise, il y a eu le fameux, on s'est dit les choses là. Ça a fait du bien au club qui était à ce moment-là quasi en perdition.
Nice a fait un match très serein hier. Ils ont été menés par Strasbourg et ensuite tranquillement ils sont revenus, ils ont gagné.
Exactement. Et moi je les, eux ils vont rester dans la zone Europe.
Ils ont 5 points d'avance sur Lens et
ils vont pas s'écrouler avec voilà, les 5 points et les dilapider en 3 matchs.
Voilà, ils ont une victoire à gagner, un match à gagner sur 3. Voilà. Ça valait.
Donc tu as quasiment
Lille, Brest, Monaco,
ton 5, Paris. Ton podium des 5, tu l'as. Hein.
Voilà. Donc ensuite il nous reste Lens, Marseille, Lyon et Rennes. Donc ils sont 4 pour 2 places.
C'est ça. Mais pour les 5 premiers, pour moi, tu les as là. Pour moi, après, c'est juste 3 et 4 entre d'ordre. Brest et Lille. Ah non, il y a Monaco aussi, on ne sait jamais avec eux, ils peuvent.
Ah bah, ou 2 et 3 entre Brest et Monaco, peut-être aussi.
L'ordre du 2, 3, 4 reste à déterminer. Mais les équipes, t'as ton quintet dans le désordre, quoi. Tu vois,
les Niçois, qui a priori ne seront pas sur le podium. Hein, parce que là, il faudrait vraiment un concours de circonstances. Faudrait qu'ils gagnent leurs 3 matchs, les autres s'écroulent.
Ouais, il ne plus que Nice gagne ses 3 matchs.
Il y a 5 points d'écart.
Ils vont jouer le PSG à domicile, Brest. Mais le PSG, suite à la double confrontation, dans quel état il y joue. Écoute.
Alors Nice a été, en fait, je voulais en venir là. Nice a été très longtemps sur le podium. Est-ce que Nice, qui finit 5e ou 6e, on doit le considérer comme une saison réussie ou finalement une déception vu la première moitié de saison sur le podium?
Pour une équipe comme Nice, se retrouver en zone Europe, jouer l'Europa League, réussi à 100%.
Ouais, je suis d'accord.
La première partie de saison, ils étaient en surperf. Ils ont vécu la crise dont on a beaucoup parlé. Je suis désolé, là, s'ils terminent dans le top 5, c'est une saison réussie pour
l'équipe. Le top 5 sera réussi, quels que soient les clubs qui seront dedans, sera réussi.
Bien sûr. Là tu as des équipes qui peuvent être satisfaites.
Nice finit avec le PSG et Lille, les deux derniers matchs.
Nice?
Et oui, les deux derniers matchs de Nice, c'est Paris et Lille.
Bon, voilà. Avec Lille, ça peut être un truc qui peut ressembler à une sorte de finale pour quelque chose de gros.
Bah, peut-être la 4e place.
C'est à Lille ou c'est à Nice? C'est à Lille.
À Lille.
Ouais. Donc Lille, c'est Lille.
Ils reçoivent Paris, ils vont à Lille. Donc reste à voir maintenant. Alors le truc fou, ce serait évidemment l'OL. Et si l'OL, après avoir été zone de relégation finale européenne,
une saison historique pour eux, vraiment.
Hein. L'OL, ils ont un avantage en plus sur tous ces clubs-là. Enfin, tous ont un objectif, mais l'OL, ils sont tendus par la finale de Coupe de France qui est après le championnat. Donc ils ont tous envie de la jouer. Tous, ils sont tendus par ça. Ça, c'est très
c'est mobilisateur.
S'ils terminent 7e, ils sont européens. Lyon, quoi qu'il en soit, le finaliste.
Exactement. Enfin bon.
Lyon, quand ils font le match qu'ils font hier, aller battre Monaco comme ça, moi dans leur tête, avec la dynamique qui est la leur, la confiance qu'ils ont retrouvée.
Ils viennent de battre Brest et Monaco.
Absolument.
Même si Brest s'est tiré par les cheveux.
Ils ont juste pris, ils ont pris la raclée au Parc.
Ils vont à Lille, là, quand même.
Ah, mais oui, lundi prochain, dans un match décalé. Ouais. Mais excuse-moi, mais Lyon, là, ils peuvent s'autoriser sans problème tout espoir dans cette fin de saison, en tout cas d'être européen, bien sûr. Bien sûr. Non, mais ça va être passionnant, là, c'est tous les matchs qui restent, là.
Lyon, qui est quand même, on rappelle, ça paraît dingue de dire ça, est la meilleure équipe de Ligue 1 sur la phase retour, avec Paris.
Après, t'as plein de trucs à regarder.
Sagisme, ça marche.
T'as Nice et son calendrier bizarre, le fait qu'il aurait décalé le match, c'est-à-dire qu'ils vont se taper 3 matchs en 10 jours, je crois, un truc comme ça.
Là, ils jouent pas pendant 15 jours.
Donc ça va être un handicap, peut-être, à gérer. Il y a des confrontations entre prétendants. Il y a beaucoup de suspense,
décision. On n'a pas la fin de championnat. La plus régulière de l'histoire, hein, parce qu'entre les compos du PSG un peu baroque contre des clubs qui jouaient le maintien, avec ces décalages de journée de championnat, etc. C'est vrai que ça fausse un peu la marche.
Le PSG qui se qualifie pour la finale, je pense que à Nice, ils peuvent envoyer une équipe un peu touriste. Hein.
Effectivement. Et puis, je voudrais quand même également qu'on regarde ce qui se passe tout en bas.
On peut pas dire, parce que je rebondis sur les propos de Bologna, mais l'équipe qu'aligne PSG contre Le Havre samedi. Voilà. Oui, c'est l'équipe. C'est une équipe très digne du PSG. Enfin,
je comprends pas les coachs qui font ces sorties.
Ça allait quand même Dembélé sur le terrain avec Mbappé.
Et c'est pour parler. C'est parce que comme ça, ça te permet de mobiliser un peu les tiens, d'entretenir une tendance. Regarde, il y a de l'injustice, machin. Ça doit un peu. Je sais pas. En fait, c'est absurde comme sortie.
Ah oui,
il doit totalement y avoir un but derrière. Peut-être de motiver tes joueurs, mais dans le fond, ça n'arrive à rien.
Il glisse en barragiste.
Chacun fait bien ce qu'il veut. Chacun fait bien ce qu'il veut avec ses compos et pense à. En Ligue 1, tu démarres, t'as 20 équipes, chacun joue sa vie. Tu joues ta vie, tu construis ton aventure et t'en as rien à foutre de l'autre à côté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et tu fais de cadeaux à personne et il n'y a pas à faire de cadeaux ou à dire ah « Non, contre nous, t'avais mis cette compo, alors pourquoi t'as pas mis cette compo-là » et machin. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Ça veut rien dire, ça.
Regardons ce qui se passe un peu en bas. Tout va se jouer entre 5 équipes, Nantes, Le Havre, Metz, Lorient et Clermont. 7 points d'écart entre ces équipes-là. Bon, je ne sais pas s'il y a...
Nantes, je ne les mets pas dedans. Je te le dis depuis le début.
Ah Nantes, toi, tu estimes que c'est sauvé?
Pour moi, c'est sauvé.
Ah bon?
Oui.
Bon, d'accord. Mais ils ne gagnent plus, mais bon, pendant ça...
Ils ont fait un très bon match nul à Montpellier.
Oui, d'accord. Enfin,
oui.
D'accord.
Non, mais mine de rien, Gilbert, compter 3 points d'avance déjà,
c'est beaucoup. Mais je te signale qu'on est en train de parler d'équipes qui prennent à peine un point par match de moyenne. Donc, pardon, mais 3 points, c'est beaucoup.
Nantes, ils prennent un point par match, pas les autres.
La pire série de Ligue 1 en ce moment, c'est Lorient. L'équipe la plus nulle qui enchaîne les défaites.
Lorient, ils sont dans la charrette.
5 d'affilée.
Lorient, c'est charrette, et après, ça se joue pour le barrage, et ça va se jouer entre Le Havre et Metz.
Clermont, faut qu'il gagne au moins et 2 matchs sur les 3 derniers.
Nantes, permets-moi quand même de te dire que Nantes joue dans l'ordre Brest, Lille et Monaco.
Ouais, pour ça, je suis pas d'accord avec Daniel. Mais,
L'année dernière, je crois qu'ils avaient un petit peu le même genre de parcours, Nantes.
Est-ce que le mage Comboiré va y arriver une nouvelle fois?
Non, mais ça, c'est le barrage, en plus. Ils peuvent être en barrage, Nantes.
Ah oui. Non, mais c'est, il est vrai que Lorient.
Ce calendrier de Nantes, tu peux me le reciter?
Brest, Lille, Monaco.
Effectivement.
Ouais, ça.
J'avoue que le calendrier m'avait un peu échappé.
Il faut un peu le regarder quand même, Daniel.
Mais ils peuvent se faire un barrage et s'en sortir au barrage.
Donc toi, on dit Lorient.
Lorient, Clermont. Donc je t'envoie ma.
Envoie les deux en Ligue 2.
Lorient, Clermont, Charrette. Charrette et Nantes, Le Havre, Metz. Ça se bataille pour.
Vous savez quelle est la dernière journée? Lorient, Clermont.
Oui, ça se trouve,
ils sont peut-être les deux en Ligue 2 ou pas.
Ils sont dans la charrette à se jeter des ballots de paille.
Hein. Ou pas.
Il n'y aura rien à jouer entre eux. Bon. Il y aura à se dire, on se retrouve l'année prochaine en Ligue 2.
Voilà ce que l'analyse de l'after ce soir sur ce sujet.
Il y a plutôt de se dire qui on a envie de voir en Ligue 1 l'année prochaine ou pas.
De l'autre côté, c'est Auxerre, Saint-Etienne, ça va monter. Un peu.
Non, mais je parle des clubs qui jouent le maintien.
Ah,
moi, j'espère que le Havre va se maintenir, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà.
Ouais, moi, je suis assez d'accord. Je trouve qu'il y a une.
J'aimerais bien que le Havre se maintienne.
Une équipe sympathique.
Ouais, puis qu'a bien.
Je vous laisse ce genre d'espoir, je m'en fous.
Daniel s'en fout. T'intéresse pas au peuple, Daniel.
Quel rapport?
T'intéresse à l'aristocratie de la Ligue 1, au Paris Saint-Germain, à ses milliards, etc. Tu détestes les vins du pied normand.
Qu'est-ce qui devrait me conduire à préférer Le Havre, Metz,
je sais pas, tu peux avoir un cœur, tu peux avoir.
Non, mais il faudrait que j'ai une attache.
Mais toi,
t'as une attache normande.
Par exemple, ton affection pour Loïc Ferry, par exemple.
Charrette.
Voilà. Non, mais la Slobologie quand même, il t'a fait rêver la Slobo avec le Steaua de Bucarest.
Bon, alors
contre le FC Barcelone.
Le Havre et Metz, sur quoi je pourrais me décider? Écoute, je vais me décider sur la ville. Je préfère Metz au Havre.
Sur la qualité de la beauté de la ville.
Jolie centre-ville, la
beauté méconnue.
Metz, c'est une ville que
j'aime
bien.
Beauté très méconnue, Le Havre. Le musée du Havre est magnifique. Le musée André Malraux du Havre.
Je connais les deux villes.
Le Havre, tout le monde dit que c'est moche. Bon, je ne trouve pas que ce soit moche.
C'est une ville intéressante d'un point de vue architectural.
Ouais, bien sûr.
Pas d'âge soit très beau non plus.
Évidemment, tout a été rasé pendant la guerre. Ah. Donc, c'est une ville neuve.
Il y a un très beau musée au Havre. Très beau musée.
Voilà, donc tu m'as fait choisir. Pour ça. Mais en même temps, en entraîneur, j'aime bien ce que fait Elsner. Donc, bon. Et puis, oui, il y a Baudemer.
Ben voilà, tu es convaincu. Allez, dans un instant.
On aime tous ce que fait Elsner, mais Elsner a gagné 6 matchs. Ils ont gagné 6 matchs, Le Havre, cette année. 6 matchs.
Oui.
C'est pas beaucoup.
Ouais, vrai, ils viennent de monter, c'est un des plus petits budgets de Ligue 1, sinon le plus petit avec Clermont.
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Le Havre. Donc voilà, s'ils se maintiennent, ce sera une saison réussie.
Qui était monté l'année dernière, Le Havre avec qui
L'an dernier, qui est monté
Metz, non
Metz, ouais, Metz. Oui. Metz.
Tout à fait.
Dur, hein, dur de se maintenir.
Exactement. Allez, dans un instant, la sonorisation des arbitres, on vous explique tout.
La bonne discussion.
On va parler de ça.
Ah, pourquoi pas?
Bah, je sais pas. Je m'en fous.
Bah, c'est parce que tu t'en fous que les gens ne s'en foutent pas.
Ah, mais ça va peut-être animer nos soirées de la saison prochaine.
Ah, bah, plus que ça. Je t'annonce 1000 jingles chaque week-end. On va se régaler. Tiens, d'ailleurs, on a un petit top 50 Steve Savidan. On vous le fait écouter d'ici minuit. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h48. Daniel Riolo est là, Stéphane Guy est là. Avant de parler de la sonorisation des arbitres, je vous ai promis un top 50. Top 50, Steve Savidan, qui hier est arrivé tout ébouriffé juste à la fin du match, à l'antenne, juste à la fin du match Rennes-Brest. Je pense qu'il est encore sous le choc de cette fin de match et il nous a quand même sorti ça.
C'est franchement un match de fou, un scénario de dingue. Et je suis pas forcément d'accord avec ce que j'entendais de dire que bah, c'est pas forcément Florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
C'est pas complet. C'est
pas complètement Florichon.
Florimichon. Il aurait dû lâcher un Florimichon, ça passait tout seul.
Du coup, je sais pas, il pensait jambon, il pensait. Je sais pas. Et c'est pas Florichon, sacré Steve.
C'est pas Florichon.
Paul nous dit qu'on a déjà le jingle sonorisation des arbitres.
Vous voulez un soin? Vous voulez un soin ou ça va aller?
Il commence à dater. Hein. Quand Monsieur Lannoy était encore arbitre.
Monsieur Lannoy avant qu'il c'est soit à la Ligue et qu'il se fasse virer.
Je me souviens bien.
C'était une finale de.
Ah non, peut-être pas, ou une Coupe de la Ligue.
C'était une finale de Coupe.
Coupe de la Ligue. Ouais.
Coupe de la Ligue. Il s'adressait à l'occurrence.
Non, c'était pas à Brandao, non?
Non, pas à Brandao. À Caboret. Hein, Caboret.
Donc dans un match de. Bah donc c'était la finale OM Montpellier, non? Ça doit pas être. C'est pas la finale Coupe de la Ligue OM Montpellier, ça?
Je crois. Peut-être possible.
Possible.
C'est aussi de là qu'est venu le fameux j'ai pas touché de Brandao. C'était même soir.
Ah, c'était le même soir.
Comme cette... quoi la sonorisation des arbitres,
ça
vous voyez
cette finale de Coupe de la Ligue.
Mais, les gars, attention, parce que la sonorisation des arbitres ne concerne pour l'instant absolument pas ces phases de jeu.
C'est-à-dire ?
Je vous explique. Donc en fait, Philippe Diallo a confirmé la sonorisation des arbitres. Il explique qu'il a convaincu la FIFA pour essayer un nouveau processus. En fait, c'est inspiré du foot américain. Les arbitres au football américain. En fait, ce qui va se passer, c'est que les arbitres vont pouvoir parler au moment où ils vont voir les images de la VAR. Lorsqu'un arbitre va voir l'écran au bord du terrain pour consulter les images de la VAR, il pourra se tourner vers le public en étant équipé d'un micro.
Oh non,
pour expliquer.
Oui, je vois ce qu'ils font au foot américain.
Pour expliquer au public ce qu'il a vu et les décisions qui en découlent. En fait, c'est ça.
Ah, c'est destiné aux spectateurs du stade. Alors,
c'est une première étape. Et donc, Philippe Diallo explique...
Qu'est-ce que ça changera quand il voudra nous valider le pénalty qu'il a donné l'autre jour dans le Marseille-Nice.
Ah, Marseille-Nice.
Il va dire, j'ai vu que le pied est doux. Et nous, on va être là, mais t'es bigleux en fait, t'as rien vu. T'as vu à côté. À quoi ça va servir?
En fait, les instances estiment...
Mais c'est bidon!
Les instances estiment que quand t'es devant ta télé, t'as plus d'éléments, sans doute, pour comprendre. Et que les gens qui sont au stade, souvent, sont un peu là, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? On comprend pas.
Et les autres devant la télé, ils continueront à dire que c'est de la merde.
Bon, ben, je pense que c'est ça. Mais attention, ce n'est qu'une première étape, parce que Philippe Diallo ne désespère pas de convaincre ensuite la FIFA de pouvoir avoir une intégralité des matchs sonorisés. Un peu comme au rugby, quand on entend l'arbitre qui explique au capitaine, voilà, je vous mets tel truc parce qu'il s'est passé ci, s'est passé ça. Voilà. Donc en fait, c'est une sorte d'étape 1.
Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que ça va apporter.
Tu estimes que c'est un gadget.
Mais qu'est-ce que ça apporte? Dis-moi ce que ça apporte.
Non, moi non plus, franchement. Enfin,
mais qu'est-ce que ça apporte?
Alors, autant sur le VAR, depuis le début, il n'y a pas photo. Autant là, j'attends quand même de voir, moi, parce qu'en termes de pédagogie, de compréhension des décisions, en fait, ça va humaniser un peu l'arbitre. Ça va montrer que lui, parfois
donc, expliquer
aussi,
une erreur,
il peut expliquer.
D'accord.
Parce que le jour où l'arbitre te dit,
ouais, c'est
monsieur
sûr.
Machin.
Expliquer que j'ai fait une connerie, c'est mieux.
Je siffle là.
Ça t'enlèvera pas la connerie. Hein.
Oui, mais là, tu peux dire, bah, tiens, ok, je comprends pourquoi il a sifflé. Il a pas vu ça, ou alors il était peut-être un peu mal placé, j'en sais rien, mais au moins je comprends. Tu vois ce que je veux dire?
Non.
En termes de pédagogie, ça peut, moi j'estime que ça peut apporter quelque chose.
Je comprends pas. Mais qu'est-ce que les pédagogies? On est à l'école ou quoi là?
Non,
mais... On est en train de regarder un match de haut niveau.
J'en fais le mot pédagogique,
un match de
Ligue 1.
L'autre, il est en train de parler, on a l'impression que c'est Véronique, la CPE, qui va venir. Non, bon, alors je vais t'expliquer là. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer d'avoir cette explication?
Ah, parce que toi, quand t'étais
au lycée, à l'école, la pédagogie.
Et qu'on te disait Riolo, 3 heures de colle, tu voulais pas une explication.
Mais à l'école, je suis pas à l'école, je regarde un match de Ligue 1. J'ai pas besoin qu'on vienne m'expliquer un
mais
truc qui va.
C'est le principe de la pédagogie, de l'explication. Fantastique.
Non, je comprends pas. Je suis pas là pour avoir besoin de pédagogie. Je suis là pour avoir de bons arbitres.
Moi, je dis.
Je veux avoir des bons arbitres, moi. Je veux savoir comment l'arbitre est désigné. Je veux savoir pourquoi on nomme cet arbitre. Est-ce que c'est parce que c'est le pote du patron de la Ligue de Méditerranée ou de je sais pas où? Est-ce que on a nommé Machine parce que c'était une meuf et que ça faisait bien dans le décor? Est-ce qu'on a nommé un tel parce qu'il est compétent? Et pourquoi c'est lui qui était là? Je veux savoir pourquoi Pignard, on le reverra pas parce qu'il a été nul sur un match. Et combien il a pris de punitions?
T'as besoin
et
de savoir.
Et pourquoi il a pris une punition? Et pourquoi on la prend? C'est ça qu'on a besoin de savoir. C'est pas, j'ai sifflé penalty parce que j'ai estimé que le pied, il est venu là. Ouais, ouais, t'as estimé, mais t'as mal estimé, mec. Ben, ça change quoi? Je vois pas. Je comprends pas.
Tu sauras pourquoi il a
sifflé. Je comprends pas. Je comprends pas ce que tu dis. Je comprends pas.
Bon, on verra l'année prochaine. Donnons sa chance au produit.
Ok.
En tout cas, c'est un des objectifs de Philippe Diallo. Parce que des fois, ces derniers temps, je disais, tiens, Philippe Diallo, c'est vrai qu'on l'entend pas trop, on sait pas trop ce qu'il fait. Voilà quelque chose de concret. Voilà.
Si c'est quand tu écoutes comme vous faisiez à l'époque, là, J+1, Stéphane, quand en fait, on écoutait ce qui se passait, mais c'est un petit peu comme si on volait le son. Là, ok. Je comprends.
On a eu des pépites. Hein.
Exactement.
Mais ici, là, c'est un terrible arbitrage, monsieur Riolo.
Voilà. Ah. Mais la façon dont on veut le faire là, qui en fait simplement pour, en fait c'est ouais, une fois de plus
qui en a dit bien plus que
en fait cette
bien
histoire
des choses sur le rapport entre histoire, le joueur de la Ligue et celui du PSG.
C'est en gros pour mettre un pansement sur les futures conneries. On pense que ça passera mieux. En fait, c'est je fais avaler une pilule en donnant une explication en forme de pédagogie. C'est grotesque.
Alors, autre info concernant l'OM et en vue du match contre l'Atalanta, il y a un problème parce que le stade à Bergame est petit. 14 000 sièges seulement. Et donc, bah forcément, le parkage visiteur est forcément limité. C'est toujours 5% hein, du nombre de places disponibles.
Donc 700.
Donc 750 places pour les supporters marseillais qui, évidemment,
pas beaucoup.
Veulent se déplacer beaucoup plus nombreux. Donc, qui
râlent. 14 000, Bergame.
Ouais. Ouais, c'est pas grand. Hein.
Est-ce que Brest, ils peuvent. Non, ils peuvent même pas arriver à faire un stade comme ça.
Bah, le truc, c'est que.
Bah, c'est pas le problème du nombre de places, Daniel. C'est le problème de.
Oui, de la régularité avec
voir s'ils sont.
Ouais, bien sûr, j'ai compris. Ouais.
Donc, bah, à Marseille, ça râle, hein, forcément. Parce que, bon, 750 places, c'est pas beaucoup, mais c'est comme ça. A contrario, on devrait avoir près de 3000 Italiens au vélodrome jeudi.
Bah, avec, c'est une question de taille de stade, c'est tout. Je
bah, ouais, même c'est
pas. Il y a tu pas peux cheminer autant que tu veux. Déjà, si le stade, il est pas extensible.
Oui, et alors, pour jeudi, il y a peut-être certaines tensions avec les ultras de la Talenta qui sont pas exclus. Enfin, le match est très surveillé. Voilà. Et on dit même que, attention, si l'aller se passe bien, il y aura pas de problème pour que les Marseillais aillent à Bergame au retour. Mais si ça se passe mal jeudi, ça pourrait être remis en question. Voilà, donc il faut que tout le monde se comporte correctement. Dans l'actu du jour, je voulais également vous signaler autre chose. Tout à l'heure, les drôles de l'âme en ont parlé, mais c'est intéressant. La majorité des clubs de Première Ligue aujourd'hui se sont entendus pour fixer un plafond de dépenses, calculé à partir des droits de télé perçus par le club le moins bien loti.
Pas compris.
Avant que tu hurles au système communiste, Daniel, je t'explique.
Sachant qu'il y a un système assez égalitaire en Angleterre, justement.
Oui, sur les droits de télé. Par exemple là, la lanterne rouge de la saison dernière, Southampton, avait perçu 122 millions d'euros de droits. C'est déjà, je vais me dire, c'est déjà absolument fantastique.
C'est plus que le premier en Ligue 1.
Voilà. Et ben le plafond des dépenses sera calculé à partir des droits télé par le club le moins bien loti. On appelle ça l'ancrage. Et donc ce sera plafonné à 5 fois le montant. Que je vous ai donné.
Ah oui, donc ça va, il y a de la marge quand même. Voilà.
On parle de presque 600 millions.
Oui, c'est ça. Mais, de masse salariale.
Mais malgré tout, non, total de dépenses. Indemnité de transfert, honoraires versés aux agents et salaire.
Oui, oui, mais donc c'est quand même la masse salariale, ça.
Bon. Alors évidemment, il y a.
C'est pas les budgets sécurité ou le budget communication du club.
Il y a deux clubs qui ont voté non.
Manchester City.
Manchester United.
United,
ouais. Et il y en a un qui s'est abstenu, c'est Aston Villa. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que Chelsea, qui est quand même le club qui dépense le plus.
A voté oui.
Alors, ils se sont abstenus quand même. Mais peut-être ils se sont dit, bon, peut-être ça va peut-être nous aider finalement à faire moins de conneries. Tu vois, bon, bref.
Ouais, c'est un système un peu basket US, un peu.
Bah ouais, c'est. Voilà.
Il paraît qu'un agent très influent sur la place du football européen me dit que le stade de Bergame est en travaux. N'oubliez pas cet élément.
Ah, l'agent 001 ?
Non, un autre.
002. Très bien. Barcelone a battu Valence 3-2, hein, je le signale, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, à but de Lewandowski en fin de rencontre, 3-2 pour les Barcelonais. Et on termine tout de suite avec Survivor.
La l'afterfoot sur RMC avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Événement dans Survivor depuis que Survivor existe, c'est-à-dire depuis quelques saisons maintenant, Daniel a enfin gagné un Survivor. Et tout ça en ayant son compte Winamax bloqué. Donc c'est une performance, je dois le dire. Tout le monde avait mis...
Et en deux semaines.
Oui, bah alors il se trouve que tout le monde avait mis Paris ce week-end. Oui, alors évidemment Paris,
là, voilà. Pas moi.
Daniel avait joué Lille à Metz avec voilà. Thibaut Leplat, donc tu as gagné avec Thibaut.
Ah, et en deux semaines, ça a été torché très rapidement.
Ah oui, c'était le Survivor le plus rapide de l'histoire.
Je l'annonce. Hein, moi, j'en gagne une seule par an parce qu'après, faut laisser les autres un peu profiter. Donc, vous préviendrez Walid que dorénavant, je lui laisse un peu d'espace.
Très bien.
S'il veut gagner, lui aussi, enfin, s'il y arrive.
Hein, bon, je sais pas si on va refaire un Survivor pour trois journées. Là. Je pense que c'était le dernier.
Et il y a quoi à gagner en fait?
Bon, du freebet. T'as gagné les.
Ah oui, j'ai mon compte bloqué.
Eh ben, du coup, t'as pas gagné freebet.
Ah, ok, super. Ah,
pose-toi la question, pourquoi t'as ton compte bloqué? Qu'est-ce que t'as foutu?
C'est moi qui me le suis bloqué volontairement. Ah. C'est trop long à expliquer.
Très bien. Ouais. C'est fini, demain on sera là dès 20h After Live avec la Ligue des Champions évidemment, le Bayern face au Real. D'ici là, allez faire un tour sur l'after.media, on a des magnifiques offres avec le code RMC24 pour vous abonner à la revue. Moins de 4€ par mois, 3,90€, c'est donné. Et vous tapez RMC24 dans les offres annuelles et vous aurez une autre réduc. À demain soir, merci Daniel.
Ciao.
Merci Stéphane, bye bye.
RMC, l'after foot.